Le matin, Café Grégo sur News FM.
Heures pile, les amis, j'espère que vous allez bien. Merci de nous rejoindre. L'agenda culturel, on le décale à 9h30 aujourd'hui. À 9h, on a des invités avec nous autour de la table. Les amis, on va parler de l'association Un Toit pour Tous. Et on va en parler pendant une vingtaine de minutes avec nos invités autour de la table. J'ai le plaisir de recevoir Michèle Daran, qui est présidente de l'association Un Toit pour Tous. Bonjour Michèle.
Bonjour.
Et nous avons aussi René Balin, qui est président de l'Observatoire de l'hébergement et du logement à Un Toit pour Tous. Bonjour.
Bonjour.
Et puis bien sûr, Loris qui est avec nous.
Ah ouais. Bonjour à toutes et à tous.
Ça va Loris ?
Ça va et toi ?
Très bien, très bien. L'association Un Toit pour Tous, est-ce qu'on peut la présenter en quelques mots, s'il vous plaît, Michèle ?
Oui.
Et depuis quand elle existe ?
Alors, elle existe depuis une bonne trentaine d'années, voire 40, ça dépend comment, à quel moment on fait commencer l'association. Bref, c'est une association qui œuvre, comme on dit, contre le mal logement, pour loger les ménages et les personnes les plus défavorisées, qui ont difficilement accès au logement. Que ce soit dans la chaîne du mal logement, vous avez les gens qui sont à la rue, vous avez les gens qui sont chez des amis, qui n'ont pas de domicile personnel fixe, et puis après vous avez les gens qui sont dans des situations d'hébergement, qui sont à l'hôtel, ou ensuite dans le mal logement. Mais peut-être René sera plus précis que moi sur cette question, parce que c'est un spécialiste, notamment à travers les travaux de la Fondation pour le logement des plus défavorisés. Bref, dans la chaîne du mal logement, vous avez ensuite les gens qui sont donc en hébergement, mais qui passent de l'hébergement à un logement indigne. C'est aussi du mal logement, etc., etc. Bref, la grande difficulté de ces ménages et de ces familles et de ces personnes, c'est d'accéder à un logement digne, comme on dit, c'est-à-dire avec des critères d'habitabilité qui soient corrects, et dans des conditions, comme on dit, abordable, au sens où, bien sûr, on peut toujours accéder à un logement si on a les moyens de payer 1200 ou 1500 euros par mois de loyer, ce qui n'est absolument pas le cas de ces personnes. Donc le logement abordable, c'est bien sûr le logement social, voire le logement très social. Donc Un Toit pour Tous travaille à réaliser du logement très social dans l'agglomération grenobloise, dans le Voironnais et aussi un peu dans le Grésivaudan. Comment on fait ? Eh bien, on achète des logements qui sont plutôt, pas forcément dégradés, mais disons qu'ils sont, nécessitent des travaux.
Des travaux, là.
Nous faisons les travaux avec nos équipes, et nous remettons ces logements, une fois réhabilités, dans le circuit du logement social.
D'accord.
Pour ces personnes les plus en difficulté d'accès au logement.
Ça allait être ma question. Quelle différence avec les bailleurs sociaux, en fait, de Un Toit pour Tous, mais c'est quelque chose qui se passe en amont, en fait.
Eh bien, nous sommes bailleurs sociaux, en quelque sorte.
Ouais.
Mais même si nous proposons une catégorie bien spécifique de logement social, qui est le logement très social, avec des loyers qui tournent autour de 5 ou 6 euros le mètre carré, lorsque vous avez dans le privé des loyers plutôt autour de 12, 11 à 13 euros selon la surface, voire 15 quand il s'agit de très petites surfaces. Le mètre carré augmente, bien sûr. Donc nous proposons des loyers très bas. Et nous arrivons à réaliser ce genre de propositions sur le marché du logement social, notamment grâce aux subventions que nous recevons des différents organismes de l'État, de la métropole, enfin des intercommunalités, des communes et du département de l'Isère. Voilà.
Très bien. René Balin, vous êtes président de l'Observatoire de l'hébergement et du logement à Un Toit pour Tous. Votre vision vaut sur le mal logement. Qu'est-ce que vous pouvez nous en parler? Et puis, qu'est-ce que vous observez, finalement, au final?
Qu'est-ce qu'on observe à la fois au niveau local et au niveau national, puisque je participe à la rédaction du rapport sur l'état du mal logement en France de la Fondation pour le logement des défavorisés. Pour le dire en deux mots, tous les indicateurs sont au rouge. À la fois, on est dans une crise du logement assez profonde. On en parle de plus en plus dans les médias, à l'occasion des municipales. Mais ce sont tous les indicateurs qu'indiquait Michel à l'instant qui ont une évolution très défavorable et inquiétante, quoi. Hein, on est, quand elle présentait les différentes situations des personnes à la rue jusqu'à celles qui sont hébergées, mais disons en gros, celles qui n'ont pas de logement personnel, c'est 1 million de personnes en France. Hein, on s'attache souvent aux personnes à la rue, 40 000 à peu près, encore qu'il soit très difficile de les dénombrer, mais c'est 1 million de personnes au moins qui sont privées de domicile personnel en France. Quand je disais que tous les indicateurs sont au rouge, la demande de logement social n'a jamais été aussi élevée. Et en même temps, la production du logement social n'a jamais été aussi bas. On est passé de 120 000 logements en 2017 à peu près à 80 000 aujourd'hui. Et la tendance, c'est pas un redressement de la situation.
Ça s'explique, ça, pour comment on passe d'une situation de 120 000, non, 120 000 à 80 000 logements
sociaux construits.
Alors que la demande n'a jamais été aussi
haute. La demande explose. Elle n'a jamais été aussi élevée. On est à 2 800 000 demandeurs de logements sociaux enregistrés par les collectivités locales, par les organismes HLM. Donc, deuxième indicateur qui est inquiétant. Troisième indicateur inquiétant, c'est la situation, les conditions de logement. C'est ce qu'on appelle la précarité énergétique, soit parce que les logements sont de mauvaise qualité, soit parce que les ménages dépensent au-dessus de 10% de leurs revenus pour se chauffer, quoi. Hein, donc là, de l'ordre de 10 millions de personnes qui sont dans cette situation, en sachant que on avait l'habitude de parler des passoires thermiques, c'est-à-dire les logements dans lesquels on a froid l'hiver, mais il y a maintenant aussi ce qu'on peut appeler les bouilloires thermiques, les logements dans lesquels on a trop chaud, qui ne sont pas protégés. Ce qui fait que la période dans laquelle on est bien dans son logement est de plus en plus courte.
C'est
l'intersaison. Entre les périodes de froid et les périodes de canicule. Ouais. Voilà. Une autre source d'inquiétude. Autre indicateur très inquiétant, c'est la progression du nombre d'expulsions locatives. On était à 16 000 à peu près en 2017-2018, on est à 25 000 on a des ministres du logement, le précédent ou l'actuel ministre du logement, qui se félicitent de ces résultats et qui souhaitent faire évoluer la loi pour les rendre encore plus faciles. Hein. Et qu'est-ce que deviennent ces ménages? Et puis, un autre indicateur dont on parle peut-être un peu moins, c'est la difficulté pour les ménages de changer de logement, de choisir son logement. Mmh. Ce qui est une grande différence aujourd'hui dans la société entre ceux qui ont les moyens de choisir leur logement, et par là, leur lieu d'habitat, l'accès aux services, l'accès à l'école,
derrière,
et
ouais,
ceux qui ne peuvent pas choisir et qui sont assis. Et donc on enregistre ces dernières années, c'est particulièrement inquiétant, 2024-2025, une baisse de la mobilité résidentielle. Mmh. On était avant, pour ne prendre que le logement social, à peu près des taux de mobilité de 10% par an, et même un peu plus. On est aujourd'hui à 8%. Mais quand un locataire HLM ne peut pas déménager, ne peut pas quitter son logement parce que les loyers privés sont trop chers, Michel vient de le dire, à peu près 2 fois supérieurs au loyer HLM, a des difficultés à accéder à la propriété, il reste dans son logement. Et donc en restant dans son logement, il bloque aussi la possibilité d'attribuer ses logements à nouveau. En même temps, il faut dire que si les ménages restent dans leur logement, dans un logement social, c'est parce que c'est contraire à l'image qu'on peut avoir. Quand on enquête les locataires HLM, ils sont de plus en plus satisfaits des conditions de logement qu'ils ont dans le parc social.
Donc la situation, là, on comprend, elle est quand même assez grave. Et puis il y a des documents, vous, que vous présentez à chaque fin d'année. On en parlait tout à l'heure hors antenne. Ouais. Justement, un peu des manifestes ou des points sur l'année qui vient de se passer. Vous pouvez nous en parler, Michel?
Oui, alors vous faites référence là aux rencontres d'un toit pour tous, des rencontres partenariales, donc en partenariat avec l'association des bailleurs sociaux APSIS de l'Isère, avec l'université, j'en oublie, un certain nombre de partenaires, mais c'est nous qui les organisons, une fois par an, en général... autour de la publication du rapport national sur le mal-logement par la Fondation, donc au début février. Mais cette année, comme je vous le disais, nous avons pensé que si nous avions un message à faire passer aux candidats aux municipales, parce que le logement, c'est quand même une affaire de territoire, même si on considère que nous n'avons pas forcément des ministres du logement à la hauteur, c'est toute une chaîne pour construire du logement. Il ne faut pas qu'un ministre, il ne faut pas qu'un président de métropole ou de région, il faut aussi des maires. Et les maires... ils sont vraiment en campagne et nous souhaitions donc leur adresser un certain nombre de demandes, et nous avons pensé cette année que c'était mieux de faire ça au mois de novembre. Donc nous avons exceptionnellement organisé nos rencontres au mois de novembre, et qui était le sujet, c'était et si on parlait de logement social dans la campagne. Voilà. Et donc par rapport aux interpellations ou aux portées à connaissance que nous pouvons faire, nous avons bien sûr ces rencontres, mais nous avons aussi tous les travaux de l'OHL qui sont sur notre site, de l'Observatoire de l'hébergement et du logement. Nous avons ce qu'on appelle les 12-14, donc ce sont des petites capsules de 2 heures, entre 12 heures et 14 heures, comme son nom l'indique, qui sont accessibles en visio, sur des webinaires, enfin je ne sais pas comment il faut appeler ça, sur des thèmes une fois par mois, une fois, René, je sais tous les combien, les 12-14, une fois et demi par mois, tous les mois et demi,
7 ou 8 par an.
Voilà, et sur des sujets qui ont trait à la question du logement, à la question des acteurs du logement, et aussi, bien sûr, à la question... des personnes concernées par le mal-logement ou le logement en général. Voilà. Donc, et nous avons des publications pour mettre un peu, faire voir où on en est de la question du logement, et notamment ce dont parlait René à l'instant au niveau national. Nous avons bien sûr un prisme local. Dans notre région, enfin en Isère, nous avons par exemple 37 000 demandeurs de logements sociaux, demandes de logements sociaux en souffrance.
Ça, c'est pour l'Isère.
Pour l'Isère, et 20 000 sur la métropole. Voilà. Donc, nous travaillons sur ce genre de données beaucoup plus localisées.
Ouais. Est-ce que ça a été reçu, ces demandes? Vous faites remonter des demandes du coup aux différents candidats, là, j'ai envie de dire, qui arrivent, ou vous faites remonter ça à qui, ces rapports, ces constatations?
Oui, alors nous faisons remonter, lors de ces rencontres, nous avons bien sûr pu en parler largement. Nous avions beaucoup d'élus ou de candidats au municipal qui étaient présents, mais bon... En 3 heures de temps, on n'a pas forcément la possibilité d'aller très à fond sur les sujets, mais il y a quand même beaucoup de questions qui ont été posées, de réponses, d'échanges. Et puis nous avons publié une supplique. Non, c'est pas une supplique, mais nous avons adressé une lettre au candidat, au municipal, qui est accessible sur notre site et que nous avons diffusé en disant. Certes, actuellement, ce sont les intercommunalités, en l'occurrence chez nous, c'est la métropole, qui sont chefs de file, comme on dit, dans la production de logement social. Mais d'abord, les élus intercommunaux sont des élus communaux au départ. Et la plupart des maires siègent dans l'Assemblée de la métropole, par exemple, ou que ce soit à Grenoble, dans le Voironnais ou dans le Grésivaudan. Donc, ce sont des maires hein, qui sont toujours aux commandes et qui décident. Et ensuite, les maires ont quand même un pouvoir très important, qui est celui du permis de construire, qui est la possibilité de surfinancer, si je puis dire, au-delà de leurs compétences, du logement social dans leur commune, de favoriser des bailleurs sociaux, etc., etc. Donc, ils ont des leviers en main que nous avons détaillés dans cette lettre. Et ensuite, nous avons poser un certain nombre de recommandations très générales. En deux mots, pour produire du logement social, il faut construire. Donc pour construire, il faut financer. Le financement n'est pas à la hauteur des besoins. Et il faut construire, certes, mais il faut aussi réhabiliter l'existant.
Réhabiliter l'existant, c'est ce que j'allais dire, parce que construire, bien sûr. Donc on se doute bien que c'est la première option. On se dit, bon, ben, on manque de logements, on va en construire. Mais l'état des logements, ben, il y a plein d'endroits inoccupés qui sont à réhabiliter aussi, qui sont à améliorer. Ça, c'est un levier quand même important. Est-ce qu'il y a un ordre de priorité? Est-ce que la priorité, c'est construire, ou déjà on réhabilite et, ou on prend les deux en même temps et...
On prend les deux en même temps. Ouais. De notre côté, nous produisons du logement social. Nous avons en gestion 850 logements, parce que nous avons une agence immobilière à vocation sociale. Donc, okay. Ça veut dire que tous les ménages qui sont dans notre parc sont accompagnés par des travailleurs sociaux. Donc, nous ne produisons ces logements sociaux uniquement qu'avec la réhabilitation. Nous ne construisons pas. Hein, voilà. Et alors, bon, ça fait plus de 30 ans qu'on fait ça. Au début, c'était une petite niche, on va dire, hein, une activité de niche. Et puis, c'est devenu complètement central, à telle enseigne que, par exemple, le plan local de l'habitat, le PLH, voté par la métro pour la période 26-30, a décidé de mettre l'accent sur la réhabilitation. Il y avait auparavant, je crois, une centaine de logements par an qui étaient prévus à la réhabilitation. C'est maintenant 400. Sur 1300 logements sociaux par an qui sont prévus sur l'ensemble de la métropole dans la période 26-30, il y en a maintenant 400 et qui seront simplement des logements réhabilités. C'est-à-dire des logements, pas des logements sociaux réhabilités, attention, hein, des logements qui n'étaient pas sociaux, voilà, ouais, et qui deviennent sociaux parce qu'on les réhabilite avec de l'argent public, avec tous les outils, tous les leviers financiers qui sont à disposition des bailleurs. Nous les réhabilitons. Les bailleurs sociaux aussi s'y mettent, hein, à la réhabilitation.
Bravo.
Voilà. Mais leur vocation première, c'est quand même de construire, parce qu'ils ont les outils techniques pour faire ça, les équipes. Donc, nous réhabilitons, mais ce sont deux pieds sur lesquels il faut marcher. Quoi.
Très bien. Vous voulez rajouter quelque chose?
Non. Non, ce que je voulais signaler, pour compléter ce que vient de dire Michel, c'est qu'à l'occasion de la réhabilitation des logements, on en améliore la qualité. Et on gagne 2 à 3 classes énergétiques à l'occasion de la réhabilitation des logements. Donc c'est une action, qu'on pourrait dire, doublement vertueuse. Ouais. Vertueuse parce qu'elle transforme des logements privés à des logements comme une finalité sociale. Et elle transforme des logements de faible qualité en des logements qui répondent aux normes actuelles et aux attentes en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Voilà.
Là, je donne un exemple. Moi, je suis là, je cherche un logement social. Est-ce que je peux venir frapper à votre porte pour les démarches, ou pour en savoir plus, ou pour savoir ce que vous proposez? J'entends parler d'un toit pour tous. Je suis là, je me dis, tiens... Je suis en pleine recherche, tiens, je vais aller voir ce qu'ils proposent.
C'est vrai, voilà, vous n'êtes pas le seul. Alors d'abord, je dois vous dire que, n'est-ce pas René, toi qui es l'homme des chiffres nationaux, plus de 70% de la population française a le droit d'accéder à un logement social. C'est-à-dire, vous avez le droit d'accéder à un logement social à partir du moment où vos revenus ne dépassent pas un certain plafond. Et ce plafond est quand même relativement élevé. Pour ce qui concerne, il y a différentes catégories de logement social. Donc vous, je pense, vu les salaires très élevés que vous avez ici, je pense...
Ah bon ? J'en parle à mon directeur, j'espère qu'il écoute.
Je pense que vous pourriez rentrer dans la catégorie des logements sociaux, je ne sais plus comment ça s'appelle, PLS, voilà. Bon, voilà. C'est-à-dire les logements sociaux qui seront plus près de 8-9 euros le mètre carré que des fameux 5 ou 6 euros dont je vous parlais tout à l'heure. Pour les personnes qui ont droit à accéder à ces logements sociaux les moins chers, si je peux dire, en termes de loyer, vous avez un plafond de revenus qui est assez faible, hein, c'est de l'ordre, même pas du SMIC, c'est 11, combien par une pour une personne seule, ça doit être 11 500.
C'est le SMIC.
Le SMIC, voilà.
Sur l'année, ouais.
Voilà, sur l'année.
Ouais.
Voilà,
bah, si vous voyez que je rentre dedans, c'est moi.
Donc, vous avez le droit à un logement social, vous rentrez dedans, comme vous dites, mais par contre, il ne faut pas rentrer dans un toit pour tous, parce qu'un toit pour tous ne fait pas de location directe. Mmh. Un toit pour tous fait comme tous les bailleurs, hein, il n'y a pas, vous, même si vous allez chez Actis ou à la SDH ou n'importe quel bailleur, vous toquez à la porte, on va vous dire, monsieur, très bien, on peut prendre votre dossier éventuellement, sauf s'il y a une autre procédure, mais bref, votre dossier, ok, mais vous allez passer dans une commission d'attribution.
Tout à fait.
Les fameuses commissions d'attribution qui... classe les dossiers et qui propose aux bailleurs en disant est-ce que vous allez les prendre. Et nous, on nous propose des dossiers et nous avons toujours les ménages les plus en difficulté sur le plan financier. Et même des fois en difficulté sociale parce que comme nous avons un service social, ces ménages sont accompagnés dans le cadre de mesures qui sont financées, bien sûr.
Très bien. Quelles sont les prochaines actualités d'Un Toit pour Tous ? Est-ce qu'il y a d'autres rencontres ? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de... Ben, je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres actions à venir prochainement ? On sait qu'il y a les municipales qui arrivent.
Là, il y a une petite période de sommeil, dans la mesure où ça ne vous a peut-être pas échappé, mais le logement est un thème qui est récurrent chez beaucoup de candidats.
Tout à fait.
Ce qui est assez drôle, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, mais vous avez, par exemple, vous l'avez un petit peu effleuré, là, le thème de la vacance. Vacances, c'est-à-dire un logement vacant, un logement vide qu'il conviendrait de réquisitionner. Alors, c'est utilisé sur tous les échiquiers politiques, sans plus de précision, aussi bien pour dire d'un certain côté de l'échiquier que la vacance, c'est un scandale, et qu'il y a des propriétaires qui refusent de louer leur logement, donc il faut les obliger à louer leur logement dans des conditions tout à fait abordables. Et de l'autre côté de l'échiquier, vous avez un peu les candidats qui considèrent que il n'y a pas besoin de construire plus de logements sociaux parce qu'il y a énormément de vacances et que si les bailleurs faisaient leur travail, il y aurait beaucoup moins on arriverait à loger beaucoup plus de gens.
Ouais.
Voilà. On peut débattre longuement, il y a des chiffres à l'appui pour étayer les deux bouts de la thèse. Il n'en reste pas moins que la question du logement, qu'il soit vacant ou pas, qu'il soit en bon état ou pas, tout le monde s'accorde à dire qu'il en manque et que on peut pas dire c'est pas vrai, il y a pas de demande de logement social, hein, il y a 20 000 demandes. Mmh. Donc à partir de là, c'est un parce que le logement, c'est effectivement une question de dignité humaine, être logé, de pas être à la rue, etc. On est d'accord. Mais le logement, c'est aussi une question de santé publique. C'est une question de bien-être. C'est une question... Lorsque vous n'avez pas de logement, on n'en parle même pas. Hein, lorsque des familles sont trimballées d'hôtels en centre d'hébergement... vous imaginez bien comment les enfants peuvent grandir dans cet environnement. Mais vous avez aussi, comme le disait René tout à l'heure, des familles qui vivent dans des conditions à la limite de l'indignité, hein, en termes de confort, de santé. Donc, le logement, c'est bien autre chose qu'avoir un toit sur la tête. Mmh. C'est aussi une des conditions de l'insertion dans la vie, de la possibilité de grandir dans des conditions normales et favorables. Donc, ce thème du logement, est très partagé, et si vous avez la curiosité de regarder un peu les programmes qui vont sans doute commencer à sortir sur notre territoire, quelle que soit la commune, hein, il n'y a pas que celle de Grenoble, vous verrez que la question du logement est très présente. Donc nous espérons que... voilà cette, la supplique d'un toit pour tous, l'adresse d'un toit pour tous aux candidats sera entendue tant sur le volet construire que sur le volet réhabiliter.
Vous voulez rajouter quelque chose?
Quand Michel dit qu'il en manque, c'est évident. On manque de logements, mais on manque de logements correspondant aux capacités financières des ménages. Il ne suffit pas de construire, il faut encore que ça réponde.
Il faut que ça réponde à leurs moyens aussi.
Aux besoins sociaux, d'une façon générale. Quoi. Donc, nous, on insiste sur ça. Alors, il y a différentes façons de produire du logement, en construisant, en réhabilitant, en accompagnant des propriétaires privés qui souhaitent louer leur logement dans des conditions... social acceptable. Donc on accompagne comme ça à peu près 250 propriétaires qui confient à un toit pour tous la gestion de leur logement. On leur apporte une certaine sécurité dans la gestion de leur logement en termes de garantie des loyers, en termes de remise en état, en contrepartie d'un loyer modéré, compatible avec... les ressources
et davantage fiscaux.
Des ménages qui viennent frapper aux portes, même si c'est par un intermédiaire d'un toit pour tous. Quoi. Donc, on participe à cette ambition qui est très importante, qu'il faut produire. Quoi. Il faut développer l'offre de logement, une offre de logement abordable. Et on est particulièrement inquiet dans la période, parce que dans le domaine du logement, il y a deux piliers qui assurent la solidarité. Un, il y a le logement social, et j'ai dit tout à l'heure combien il était fragilisé, notamment par des prélèvements financiers depuis 2018 qui privent les organismes HLM d'1,3 milliard chaque année. Et donc autant de moins pour construire, autant de moins pour réhabiliter, autant de moins pour entretenir... le logement. Donc ça, c'est le premier pilier de la solidarité. Du logement abordable, produit par les organismes HLM, mais auxquels peuvent contribuer les propriétaires privés, par exemple. Et le deuxième pilier de la solidarité, c'est les aides personnelles au logement. Des aides personnelles qui sont très attaquées dans la période. Elles étaient à hauteur, en 2017, de 18 milliards. C'est énorme. Un pognon de dingue.
Pour reprendre.
On connaît tous. 18 milliards, c'est considérable. Mais en même temps, c'est indispensable pour aider les ménages les plus modestes à payer leur loyer et payer les charges locatives. Et ces aides personnelles au logement, elles sont ciblées sur les 30% les plus modestes de la population, sur les trois premiers déciles. Donc c'est une aide sociale évidente. Il n'y a pas là à s'interroger sur est-ce que ça va bien aux bonnes personnes, etc. Non. Ces aides personnelles qui représentaient 18 milliards, il y a eu 4 milliards de ponctionnés chaque année sur les aides personnelles au logement. Donc, le logement, au lieu de protéger à travers le développement d'une offre abordable, à travers les aides, il devient de plus en plus une source de fragilité. Voilà. Et donc, nous, modestement, à côté des organismes HLM, on participe à ce combat-là.
Eh bien, c'est tout à votre honneur. Untoitpourtous.org, www.untoitpourtous.org. On trouve toutes les informations, on peut faire des dons, on peut découvrir votre actualité, on peut vous contacter aussi. Vous êtes présent du coup sur les réseaux aussi et sur ce site internet. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous ce matin pour cette interview. Je rappelle que nous étions en présence de Michèle Daran, présidente de l'association Un Toit pour Tous, et René Balin, président de l'Observatoire de l'hébergement et du logement à Un Toit pour Tous. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
Et passez une belle fin de journée.